Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de la recherche. Nous sommes aujourd'hui en présence de Stéphane Beau. Stéphane Beau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et professeur de sociologie. Au cours de votre parcours, vous avez eu l'occasion d'enseigner au sein des universités de Poitiers, de Nantes, de Paris-Nanterre, à l'ENS à Paris. Et cette année, c'est votre dernière année d'enseignement en tant que professeur titulaire de sociologie politique à Sciences Po Lille. À cette occasion, on aimerait revenir aujourd'hui sur votre parcours, donc vos domaines de recherche de prédilection, votre démarche sociologique, vos principales découvertes, etc. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est votre regard sur ce parcours. Alors, votre travail porte principalement sur les transformations des milieux populaires en France, avec un premier livre en 1999, Retour sur la condition ouvrière, ou plus récemment, en 2018, une enquête de taille, La France des Belloumi, portrait de famille, 1977-2017, qui raconte les destins et les parcours sociaux de 8 enfants, et qui porte donc l'ambition de raconter l'histoire ordinaire d'une famille algérienne en France. D'où vous vient votre intérêt pour les classes populaires, et notamment cette volonté de déjouer toutes les représentations stéréotypées qui les caractérisent habituellement?
C'est une grande question, parce que très souvent les sociologues qui s'intéressent aux classes populaires en sont issus, ils sont issus du milieu populaire, et ils ont envie de redonner, on pourrait dire, à ces classes populaires des formes de reconnaissance, de dignité que ces classes populaires n'ont pas toujours dans les médias, notamment. Et moi, c'est pas le cas. Je suis issu d'une famille de bourgeoisie de province, on va dire. Et je me suis intéressé aux classes populaires au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai eu dans mon enfance-adolescence la possibilité de rencontrer très souvent les enfants du milieu populaire en faisant du sport, et notamment du football. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, puisque j'ai joué au foot dans un club entre 6 ans et 20 ans, et que c'était pour moi ma passion première. J'ai mis du temps à m'intellectualiser, à devenir vraiment sérieux dans mes études. Et quand il a fallu choisir des sujets d'enquête, j'ai toujours eu ça un peu en tête, parce que je voyais mes... Justement, on pourrait dire expérimenter la relégation sociale et scolaire des enfants de classe populaire à travers leur parcours scolaire. J'en ai un simple exemple. Quand j'étais au lycée dans Lyon, où j'étais, tous mes copains de foot étaient au lycée professionnel, ce qu'on appelait le CET à l'époque, qui était à 200 mètres du lycée où j'étais. Et tous les copains de classe moyenne, classe supérieure du foot étaient dans mon lycée. Et j'avais remarqué ça sans l'intellectualiser, sans trop y réfléchir. Et la deuxième cause, c'est en fait une cause un peu politique, parce que je me suis intéressé à cette question-là dans les années 80, on pourrait dire au moment où le grand tournant de 83, Mitterrand, deuxième c'était Mitterrand, le fait d'avoir que la gauche, le Parti Socialiste notamment, ait commencé à considérer que c'était plus intéressant, que les classes populaires étaient plus défendues. J'ai eu la chance de rencontrer un enseignant qui travaillait sur ce monde-là. Et aussi, le troisième point, c'est les rencontres. J'ai rencontré un prof qui était pour moi super, qui était spécialiste de l'enquête de terrain, qui s'appelle Michel Pialou, qui vit toujours, et qui était maître de conf à la Sorbonne, qui avait fait des travaux sur l'usine de Peugeot, que j'avais lu avec beaucoup de passion. Et comme j'avais fait Sciences Po Paris, mais j'avais lu ça avec beaucoup de... J'ai lisé les travaux sur syndicalisme très institutionnel, et en lisant les travaux de Pialou, je me suis dit, mais ça c'est intéressant, voilà.
D'accord. Et vous parlez donc, par exemple, de l'enquête de terrain de Michel Pialou. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste précisément? Et aussi, ce qu'elle apporte, en fait, de plus, quel est l'apport de cette démarche sociologique?
Alors, en fait, cette démarche sociologique, elle est au départ anthropologique. Je fais un cours ici à Sciences Po d'introduction à l'anthropologie, et je dis aux étudiants qui s'intéressent à cette discipline anthropologique, et ça les déçoit, bien sûr, que l'anthropologie, c'est déjà un peu de la sociologie, quoi, que les deux mots sont des différences institutionnelles, mais qu'en fait la pratique de l'enquête de terrain, c'est une pratique qui a été découverte par les anthropologues, notamment Malinowski en 1920 à peu près, dans cette période-là, et ça a été la méthode clé, la méthode phare des anthropologues. On reste sur un terrain, on reste avec les gens, on apprend la langue quand on va à l'étranger, on essaie de comprendre de l'intérieur ce qui se passe dans une société, en regardant, en observant de près, observer de près, le regard proche, c'est ça de l'anthropologie, et essayer de comprendre quelle est la logique des conduites sociales. Et bien sûr, la sociologie, elle s'est construite différemment, puisqu'elle a travaillé sur des statistiques, parce qu'il fallait, comme on dit, objectiver les faits sociaux, Durkheim, etc. Et il y a un moment particulier à la sociologie française, c'est les années 90-2000, où les deux vont se marier. Et donc on va faire de la sociologie en faisant du terrain, ce qui n'était pas le cas. Par exemple, Bourdieu, qui a eu la médaille d'or de l'Institut Royal d'Anthropologie en Angleterre, il est considéré comme anthropologue en Angleterre, et en France, il est considéré comme sociologue, alors qu'il est les deux.
D'accord. Et vous dites que l'enquête de terrain, c'est regarder de près. Mais dans vos travaux, ce qu'on ressent aussi, c'est, oui, c'est ça, c'est que c'est regarder de près et aussi longtemps.
Le critère numéro un, c'est ce qu'on appelle l'immersion dans un lieu d'enquête. Okay. Être immergé longtemps. Et c'est d'essayer de comprendre effectivement comment les processus se jouent dans le temps. Dans une enquête de terrain, vous arrivez à un tel moment et trois ans ou quatre ans plus tard, vous apercevez que durant ces trois ans, il s'est passé beaucoup de choses que vous avez pu observer et vous avez la capacité de mettre en rapport ces événements avec les personnes et les situations que vous avez vues.
Et vous continuez d'analyser, de garder le lien avec des familles et des gens que vous avez rencontrés dans le cadre de vos enquêtes dans le temps passé ?
Oui, c'est très le cas pour les Bellumis parce que je reste en contact avec presque toute la famille. La question est importante, parce qu'on ne fait pas du terrain comme ça, c'est pas, comme je dis en blaguant, en imitant Woody Allen, « Take the money and run », prends l'oseille et tire-toi. En fait, on ne prend pas l'oseille des enquêtés, ils vous livrent des choses. Et pour qu'ils vous livrent des choses, il y a quand même une réciprocité minimale, et très souvent, ça s'accompagne de relations assez fortes, très souvent affectueuses, si on peut dire, et amicales. Et donc, on garde le contact le plus possible, naturellement, on va dire.
Et est-ce que vous notez, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque, une différence en tout cas entre l'attitude des enquêtés qui sont issus de milieux plutôt populaires et l'attitude des enquêtés issus de classes plus favorisées, si vous avez déjà eu l'occasion.
Bah, il se trouve que j'ai pas fait l'enquête de terrain au milieu favorisé, dans les milieux sociaux favorisés. Je pense pas qu'il y ait une différence majeure. Je suis pas. On pourrait dire que des classes sociales favorisées vont être plus à même de dresser un certain nombre d'obstacles pour ne pas être observés de près. Il y a un très beau livre de Béatrix Levita, qui s'appelle « Ni vu ni connu », qui est une des rares enquêtes. Parce que Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot ont fait des travaux très conséquents sur la grande bourgeoisie, mais ils ont fait des observations ponctuelles, mais s'installer comme ça dans des endroits, dans des familles, il faut vraiment avoir la possibilité de le faire. Et c'est plutôt compliqué. En fait, l'anthropologie, l'enquête de terrain, et c'est vrai, davantage tournée vers les milieux populaires parce qu'il y a moins de contrôle de leur part sur leur vie, quoi, si on peut dire.
Quelque chose qu'on se demandait de façon plus personnelle et générale, donc vous êtes chercheur en sciences sociales, quel est l'impact de la recherche sur votre vie, sur votre vision du monde? On pourrait se dire parfois qu'en fait, tout chercheur peut peut-être devenir un peu blasé et que tout mystère trouve une explication sociale. Est-ce que ça vous a, en l'espace de 20-25 ans de recherche, est-ce que quelque chose a changé dans votre rapport aux gens, aux rencontres?
Je dirais pas trop, parce qu'en fait, pour moi, c'est vrai que j'ai vécu la sociologie comme un engagement assez total. J'étais pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai constitué une famille sur le tard, on a eu un enfant sur le tard, j'étais vraiment focus, comme on dit aujourd'hui, sur mon travail. C'était une vraie passion. Voilà, j'avais la passion des sciences sociales, pas seulement la sociologie, l'histoire, la géographie, je lisais beaucoup, je prenais pas de vacances ou très peu de vacances, ça m'intéressait pas les vacances. Voilà, j'étais pris par cette passion des sciences sociales. D'ailleurs, tous les grands chercheurs en sciences sociales que je connais, que j'admire, Gérard Noiriel, ou bien sûr Bourdieu, Boltanski, un tas de sont traversés par une passion qui les anime. Et on sent très bien cette passion, quand on lit les grands chercheurs, on le sent, cette passion, elle transpire. Donc j'ai jamais, sur les effets sur ma vie, oui, c'était très accaparant, mais au sens propre du terme.
Et cette année, c'est votre dernière année en tant qu'enseignant à Sciences Po Lille, vous allez prendre votre retraite. Comment vous pensez continuer à faire vivre cette passion? Est-ce que vous avez des projets?
Là, je suis en train de faire une enquête sur les émeutes urbaines, donc ce sera ma dernière enquête de terrain en étant titulaire, on va dire, actif, on va dire. Mais c'est une grande question, je n'ai pas encore complètement défini, parce que je suis depuis très longtemps, non pas hanté, mais passionné par l'histoire, et j'aimerais faire une vraie enquête d'histoire sociale, parce que l'histoire c'est assez proche, c'est très proche de la sociologie, et la découverte des archives, j'ai fait ça depuis quelques années déjà. J'avais fait ça aussi, j'avais fait un DEA, un Master 2, sur la démographie de l'immigration en 1945, j'avais regardé les archives, j'avais découvert une lettre originale de De Gaulle sur les races alpines méditerranéennes, ça m'avait passionné. Donc il y a ce très beau livre de Arlette Farge, Le goût de l'archive, et j'aimerais peut-être explorer cette voie-là.
D'accord.
Faire de l'histoire avec de la sociologie.
Donc ça c'est pour ce qui est de l'avenir encore incertain, donc, mais prometteur. Et pour ce qui est du passé, comment est-ce que vous jugez, avec un regard comme ça, plus mûr, la postérité de vos travaux? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées? Des choses que vous regrettez? Des choses dont vous êtes fier?
Question difficile, mais je suis... d'abord, jamais j'avais imaginé être universitaire, jamais j'avais rêvé d'être sociologue, donc tout ça m'est arrivé, bien sûr, pas entièrement par hasard, parce qu'au départ, je suis prof de lycée, je suis agrégé de sciences sociales, donc au départ, j'étais enseignant de lycée. Mais puis, j'étais pas un bon enseignant de lycée, parce que j'étais trop dans mes recherches, mes lectures, etc., et même si j'aimais bien enseigner, et donc j'ai quitté la voie de l'enseignement secondaire, parce que j'étais pas à la hauteur, je crois, j'étais pas assez bon prof de lycée, je crois. Mais donc j'ai eu cette chance de réussir à faire une carrière universitaire, donc pour moi, c'était tout bénéfice, si on peut dire. Et les critiques, ou les remarques, les regrets, peut-être, effectivement, de pas avoir assez travaillé dans les années 2000, ce moment de bascule qui apparaît dans les cités HLM, dans les cités, comme on dit, ce raidissement, cette crispation. J'ai vu pas mal de choses, mais j'ai pas osé tout dire. Si un jour j'ai à écrire, c'est assez compliqué, mais je pense que les classes populaires sont vraiment transformées. J'ai accompagné cette transformation, mais à la fin, notamment, j'étais enseignant à l'ENS entre 2007 et 2014, là dès que j'étais prof, 2004, j'ai été accaparé par les tâches universitaires, les thèses, les jurys de thèse, tout le travail administratif, etc. Et j'ai pas assez vu ce qui se passait de près, voilà. J'ai un petit regret.
Mais c'est intéressant, parce que quand vous parlez de ce regret vis-à-vis du tournant des années 2000, etc., vous pointez un point important qui distingue la recherche en sociologie de la recherche en littérature, en philosophie, c'est que en fait, vous travaillez quand même sur des faits éphémères, passagers, c'est un monde toujours en changement. Comment vous vivez ça dans vos recherches? Par exemple, c'est vrai que vos recherches, elles prouvent quelque chose, mais ce ne sera plus la même vérité dans quelques dizaines d'années. Ouais.
Ça me pose aucun problème, parce que justement, c'est ce que dit Passeron, la sociologie, c'est une science historique d'observation, c'est l'expression qu'il utilise, voilà. Il faut, et puis, nos travaux de sociologues vont beaucoup servir aux historiens dans 50 ans, 100 ans, etc. Donc là, j'ai fait on n'a pas encore parlé de ça, mais je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai fait un petit travail de sociologie de football. J'ai fait un bouquin en 2011, Traître à la Nation, dont je suis assez fier, non pas qu'il soit génial, loin de là, mais parce qu'en fait, j'ai soulevé un lièvre, si on peut dire. Bon, c'est un lièvre qui n'a eu aucun écho dans le milieu universitaire, parce que le foot, ça n'intéresse personne, ou très peu d'écho, on pourrait dire. Mais dans mon projet de retraite, j'aimerais faire une histoire sociale des footballeurs. Parce que là, je trouve qu'il y avait en deux mots, les footballeurs sont désignés comme des imbéciles. Je trouve important de dire que Ribéry n'est pas que quelqu'un qui parle mal, etc., de corriger cette image sociale terrible pour les footballeurs, parce que être un sportif de haut niveau, ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de travail, et la manière dont ils sont lynchés dans l'espace public, ça m'exaspère. Donc là, il y a aussi, j'ai pas assez dit ça, mais être sociologue, c'est aussi toujours un peu en colère, un peu de c'est pas toujours facile, mais on est souvent exaspéré par la manière dont on parle des gens dans l'espace public.
Et justement, sur le foot, vous disiez, je crois, que c'est un fait social total. Oui. En quel sens, rapidement?
Au sens de mot, c'est-à-dire qu'en fait, le football, ça permet de comprendre l'économie, l'hyperlibéralisme économique aujourd'hui. On a des multimillionnaires américains et asiatiques cachés du club français qui n'ont plus de patrons qui veulent prendre le risque d'épauler. C'est un aspect social à travers, bien sûr, les rivalités sportives, l'attachement au club, les effets d'identité territoriale, la rivalité entre Saint-Étienne et Lyon, entre le Lille et Lens, ville ouvrière, ville bourgeoise. Bon, c'est bon, passionnant à étudier. C'est un révélateur très très fin des rapports sociaux.
D'accord, merci. Et vous avez étudié à Sciences Po Paris. Quel très conseil
mauvais souvenir.
Oui, pourquoi? On n'osait pas vous demander, je ne sais pas
si. Mais si, il y a des très mauvais souvenirs.
Parce que c'est vraiment... ce qui est écrit de façon assez intrigante sur votre Wikipédia.
Non, mais c'est pas, ça n'a aucune importance, parce que moi, je suis entré par la petite porte, à l'époque, il y avait un concours en deuxième année, donc j'ai fait service public, parce que je voulais être fonctionnaire, et puis j'ai découvert un monde, j'étais provincial, je continuais à jouer au foot, j'ai des balles dans cet univers-là, j'avais pas les codes, je me sentais très, très déplacé. Bon, j'ai vécu là, toutes choses égales par ailleurs, ce que vivent certains transfuges de classe quand ils arrivent à Sciences Po, partout, en France, voilà, donc c'était pas une grande misère, mais je me sentais pas à ma place, je me sentais très loin je donne un exemple qui m'a toujours marqué, notre prof en économie en deuxième année, qui était un énarque cours des comptes, et qu'on était supposé préparer l'ENA deux ans plus tard, et il avait dit avec cette espèce d'humour très distingué, et il avait son loden et sa veste en tweed et ses chaussures anglaises, en disant, vous savez, l'ENA, c'est pas si compliqué, il faut savoir habilement dissimuler ses lacunes. Donc, il y avait cette espèce de jeu social, comment dire, et puis surtout, certains profs étaient bons, d'autres étaient moins. Quoi, j'ai eu l'impression, après j'ai lu les textes de Bourdieu et Boltanski sur l'idéologie dominante à Sciences Po, mais c'était Sciences Po de 79-80, ça a beaucoup changé. 40 ans plus tard, il y a beaucoup d'étudiants étrangers, il y a beaucoup de sociologie, etc. Moi, j'avais fait un devoir en problèmes sociaux et le prof m'avait dit « bon devoir », et je dis toujours ça quand je raconte aux étudiants pourquoi j'ai fait la socio, bon devoir, mais beaucoup trop sociologique.
Donc mauvaise expérience sur le court terme, mais sur le long terme, vous pensez pas que c'est en même temps le fait de ne pas vous être senti à votre place, aussi de voir un milieu qui vous repousse parfois, qui vous a aussi motivé à parler d'un autre type de milieu, oui, qui vous a engagé dans vos recherches. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui n'a pas l'impression d'être dans les bonnes études, n'est pas la personne d'être à sa place? Est-ce qu'il doit rester parce que ça va le forger, ou est-ce qu'il doit partir et trouver quelque chose qui colle plus à son identité?
Difficile comme question, parce que justement, moi, on pourrait dire que c'est grâce à Sciences Po que j'ai fait de la sociologie. Parce que c'est là que j'ai lu Bourdieu, j'ai lu Avec de la recherche, j'ai voulu comprendre mon malaise, entre guillemets, mon entre-deux. Et donc ça m'a beaucoup aidé à non pas mettre des mots, mais à expliquer des processus que je n'arrivais pas à comprendre, mais qui renvoyaient vraiment à des questions sociologiques, à mon avis, de fond. Donc je ne peux pas regretter d'avoir fait Sciences Po. C'était forcément aussi mon destin familial, parce qu'à travers Sciences Po, je faisais plaisir à mes parents, qui n'avait pas fait d'études supérieures, mais qui était quand même content que je fasse ça. Bon, donc, ça m'a quand même appris. Donc, je ne peux pas dire, chaque expérience de ce type est formatrice aussi. On ne peut pas faire uniquement... Voilà, pour moi, c'était formateur en ce sens-là.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes passé d'élève malheureux à Sciences Po Paris à professeur heureux à Sciences Po Lille?
Ça, on peut dire, effectivement. Je finis ici, mais j'étais très heureux des 4 ans passés ici. D'abord, le cadre matériel est super, les collègues sont... extrêmement agréable, je trouve ce lieu, j'aime beaucoup l'architecture du lieu, les petits groupes de 20 élèves entre conférences de méthode, et bon voilà, je venais d'une fac de sociologie où c'est plus compliqué, donc je vais pas sur les détails, mais c'est vrai que j'étais extrêmement heureux ces 4 ans, ici.
Est-ce que quelque chose d'important et à notifier notamment vous vient à l'esprit?
Sur la passion de la sociologie, etc., j'ai pas trop évoqué ça, j'ai pas trop évoqué ma vie privée, mais je sais que pour ma compagne, qui est par ailleurs mon épouse, qui était professeur de SES longtemps, et on avait une forte affinité, mais c'est vrai que c'est la passion du sociologue quand il va sur le terrain, et tout le temps dans ses trucs, tout le temps dans ses bouquins, dans ses thèses, pas toujours facile à vivre pour le couple. Quand on n'a pas, quand on n'est pas dans un même métier, on va dire, entièrement dans le même métier. Parce que le métier universitaire, les gens ne savent pas assez, c'est des gens qui travaillent tout le temps. Donc il faut composer ça avec la vie de famille, c'est pas toujours évident.
D'accord, écoutez, merci beaucoup. Et bon courage pour vos futurs travaux.
Merci beaucoup pour l'interview.